Donc moi, c'est Frédéric Bizard, donc le pasteur sur Mulhouse en formation. Je suis venu aujourd'hui avec mon épouse, mes deux filles qui sont en train de monter, enfin, d'aller dans la salle d'à côté. Et je viens de Montpellier. Il y a quelques années de ça, on est arrivé en Alsace, conduit par Dieu. On a fait un petit tour sur Guebwiller, l'établissement Daniel. Ma femme a été enseignante avec Céline. Et puis je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous dire le reste. Étape par étape. Avant que j'oublie, vous avez les salutations de l'église de Mulhouse. Alors, soyez pas surpris, j'aime bouger. En plus, là, il y a un petit cadre, donc je risque beaucoup d'être soit là, soit là. Si ça vous perturbe, vous me dites, je ferai un effort pour rester au milieu. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Vraiment beaucoup d'hésitations, peut-être beaucoup plus que d'habitude. Et on va parler de juge ou juge. Je vais commencer déjà, tu peux passer sur la diapo suivante. Est-ce que vous connaissez ce chant de Goldman ? Si j'étais né en 17, à Lindenstein. Quelqu'un le connaît ? Oui ? Alors, je ne vais pas le chanter, mais je vais vous lire les premières paroles. Si j'étais né en 17 à l'Interstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ? Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves et de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, l'arme au milieu d'un torrent ? Goldman pose une question. Si j'avais été à cette époque-là, au milieu des Allemands, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais suivi les nazis ? Ou est-ce qu'au contraire, je me serais levé contre ? Alors, assis, comme ça, on pourrait dire, bon, c'est facile, hein, on se lève contre, hein, on a la force de Dieu avec nous. Mais concrètement, sur place, à l'époque, qu'est-ce qui aurait été vraiment dans notre cœur quand il y a une menace qui est là ? Dans cette chanson, il prend aussi la situation entre les catholiques et les protestants en Irlande du Nord et les conflits qu'il va y avoir entre eux, alors qu'ils ont un même Dieu. Alors c'est vrai qu'ils ne pratiquent pas pareil, mais les conflits vont être plus que verbaux. Ça parle aussi de la situation en Afrique du Sud, entre les Blancs et les Noirs. Et là, c'est une chanteuse noire qui dit « Et si moi, j'étais née à Johannesburg, si j'étais née blanche, qu'est-ce que j'aurais fait ?» C'est des situations qui ne sont pas forcément faciles à répondre. Tu peux passer à la diapo suivante ? Parce que quand on lit notre Bible, finalement, ben, c'est la même chose qui nous est posée. Ça nous raconte les histoires de personnages, ça nous raconte même des histoires imagées, mais ça nous pose une question, et toi, qu'est-ce que tu aurais fait ? Si on avait été à la place de Pilate, on aurait libéré Jésus, on se serait lavé les mains, on aurait osé risquer tout perdre juste parce qu'on trouve qu'il est innocent ? Et si on avait été un pharisien, ou dans la foule lors de la crucifixion, ou le brigand à la croix, lequel des deux ? Alors là, c'est un petit peu plus facile à répondre. Mais je pense que vous n'avez pas été attaché à une croix, en train de voir un homme à côté de vous attaché à une croix, mourir aussi, et vous tournez vers cet homme qui est en train de mourir. Il lui dit, mais je crois que tu es le Fils de Dieu, finalement. C'est quand même très particulier, la foi de ce brigand. Et quand Jésus rapporte l'histoire du Samaritain. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez sacrificateur, lévite ou samaritain? Finalement, tous ceux qui passent devant cet homme blessé. Ah, moi, je me serais arrêté, hein. Je l'aurais aidé, hein, parce que je sais, je lis ma Bible, je sais qu'il faut l'aider. Alors maintenant, je vais mettre une situation réelle, actuelle. Vous êtes en train de vous déplacer, vous voyez quelqu'un de blessé dans la rue. Est-ce que vous vous arrêtez? Il n'y a personne autour de vous, hein. C'est pas la rue passante, vous êtes seul avec un blessé. Est-ce que vous vous arrêtez ou est-ce que vous continuez votre chemin en prenant votre téléphone et en disant « je vais appeler les urgences ». Ils vont s'en occuper, on ne sait jamais, c'est peut-être un traquenard. Parce que maintenant, on en voit beaucoup. Des choses qui sont là pour nous détrousser d'une manière ou d'une autre. Ah, j'ai les enfants. Ouh, je suis pressé. Non, non, mais tu vas bien? Ça va? J'ai appelé les urgences. Hein, ils arrivent. Hein, t'inquiète pas. Et puis, on continue notre chemin. Mais le Samaritain, lui, il s'arrête, malgré tous les risques qu'il pourrait y avoir. Et il va prendre soin de la personne. Il va prendre de ses biens pour aider. Moi, je pense que la majorité d'entre nous, si on s'arrêtait, on aiderait la personne, on l'amène aux urgences pour qu'il soit pris en charge. À partir de là, ah, j'ai bien agi. Ouf, j'ai fait ce que je devais faire. Mais on va pas... Enfin, je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas, on va pas faire le pas supplémentaire que fera le Samaritain. Donc pour juger d'une situation, ben c'est difficile, parce que finalement, soit on se dit « Ah, j'aurais fait ça, hein, c'était facile. » Ah, ou « J'aurais pas fait ça. » Parce qu'on juge l'autre finalement. Mais soi-même, si on est réellement dans la situation, c'est plus difficile. Quelqu'un qui aurait été violé et qui demande l'avortement... Ah, mais c'est une vie. Il ne faut pas tuer cet enfant. Et c'est vrai que c'est une vie. Mais cette personne, elle ne le vit peut-être pas comme ça. Et la manière dont on va lui dire ce qui est bon qu'elle fasse, parce que l'enfant doit rester en vie, il est bon. Mais si on lui balance comme ça, elle ne voit pas ça. Elle voit toute la souffrance que ça a engendrée. La situation est délicate. Tu vas passer à la suivante. Voici deux versets. Le premier, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et le second, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Si on s'arrête à la lecture là, on pourrait dire qu'il y a une contradiction. Les deux versets s'opposent. Finalement, la Bible, elle dit n'importe quoi. Hein. Mais si on s'arrête à une lecture rapide. Parce que la situation, elle est tout autre. Les deux versets ne s'opposent pas. Ils prennent sur deux éléments distincts. Comment est-ce que je vais juger ? Conduit par ma nature propre, ma chair, ou conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui va tout changer. D'où le titre du message « Juge ou juge ». Dans 1 Corinthiens, comme c'est indiqué là, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Alors quand il dit nous, il parle à des personnes converties. Il parle à des personnes qui ont donné leur cœur à Dieu. Il parle à des personnes qui marchent jour après jour avec Dieu. Et oui, parce que sinon, il n'y a pas l'esprit. Hein. L'esprit, on le reçoit lors de notre conversion. On a l'esprit de Dieu en nous. Ce qui est une chose différente du baptême de l'esprit. Qui nous permet d'avoir l'esprit sur nous. Alors, il y a différents types de juges. Allez, on va faire le juge du concours du plus beau dessin. Est-ce que c'est un jugement qui vous paraît correct, ça ? Oh, vous osez même plus dire. Il n'y a pas de piège, hein ? On a tout à fait le droit de juger un concours. Bon, c'est pas toujours facile. Si c'est un concours de la meilleure tarte, il faut espérer quand même que les cuisiniers, les cuisinières aient un minimum de niveau. Et à partir de là, c'est un jugement qui est agréable. Pas facile à départager peut-être, mais agréable. Puis il y a le juge de loi. Alors là, ça devient plus difficile. Oui, parce qu'il va falloir trancher, mais non pas entre deux candidats, mais pour savoir qui dit vrai. Et Salomon, il va avoir une manière très particulière de trancher. Lui-même, il veut prendre l'épée. Je ne sais pas si vous aurez fait le même jugement que lui. Moi, personnellement, je n'aurais pas osé. Mais il va le faire. Et ça va montrer vraiment la disposition de cœur. La maman va être prête à perdre son enfant, dans le sens ne plus l'avoir pour elle, mais de le voir l'enfant vivre. Elle préfère avoir une injustice que de voir son enfant. Moi, je vois qu'elle est tout petite, donc je vais limiter les mots. Mais vous avez compris. Mais parfois, dans les juges, il y a des juges iniques. Jésus racontera cette histoire. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? La justice, là, est liée à la foi. Dans notre exemple, notre veuve croit qu'elle va avoir justice, pourtant elle est en train de s'adresser à un juge qui n'est pas pour la justice. Elle y va une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, ce n'est pas précisé le nombre de fois, mais suffisamment pour qu'il en ait marre. Et qu'il dise, oh, c'est bon, ça suffit. Malgré tout, juste pour être tranquille, je vais rendre justice. Elle a cru et elle va avoir. Et finalement, nous serons justifiés si nous croyons. Alors, pas auprès du juge unique, mais si nous croyons en Christ. Oups. Il y a des juges qui sont plutôt... Oh là, tu es trop loin. Oui, je vais rester là longtemps. Il y a des juges qui ont tendance à critiquer les autres. Alors là, on n'est pas dans une cour de cassation. On n'est pas dans un concours, c'est pas une critique d'art, mais c'est plutôt « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Vous connaissez cette expression ? On peut le sortir facilement aux enfants. Je te dis de faire ça, mais papa, tu fais pas ça. Oui, mais moi je suis un adulte. Alors des fois, on a raison de dire ça. Mais dans le cas de cette expression, c'est pas ça que ça veut dire. Et dans la Bible, on nous en parle aussi, dans Romains 2, chapitre 1er. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car c'est en jugeant les autres car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Alors là, c'est plus le même jugement. Hein. C'est je reconnais finalement que c'est pas bien quand c'est l'autre qui fait, mais moi c'est pas grave si je fais. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Mais Pierre est précis, hein. Tu te condamnes toi-même. Attention à ne pas être dans ce cas-là. De ne pas nous condamner nous-mêmes en sachant que les choses ne sont pas bonnes, mais en disant, oh, on a un Dieu d'amour. C'est pas grave. Si, si, c'est grave. Et on le verra plus tard. Parce qu'en critiquant les autres, eh bien, on peut être amené aussi à les mépriser ou à médire. C'est ce que rapportera Jacques au chapitre 4, versets 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Alors quand il dit frères, c'est valable pour les sœurs, hein, je précise. Hein. Qu'il n'y ait pas que la moitié de la salle qui dise « je suis concerné ». Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. Et c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger le prochain ? Et Jésus dira ceci dans Matthieu 7, versets 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. C'est le verset que j'ai donné au tout début. Mais maintenant, je vais prendre un peu plus loin. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est déjà plus pareil. Tu es qu'un saint dans tes propos. Tu as tendance, comment dirais-je, à détruire les autres par des propos sanglants. Mais ne sois pas surpris si un jour la roue tourne. Parce qu'on est jugé de la manière dont on juge les autres. Tu es rempli d'amour, c'est de cette manière-là que les choses vont être apportées. On aime bien être repris, mais avec amour. Oui, parce que déjà être repris, c'est difficile. Mais si quand c'est repris de manière dure, ben, ça nous braque. Ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me dit ou qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle s'est vue. Elle fait pareil et elle me dit de faire ça. Hey, mais si je continue les versets suivants, c'est pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà, si je remets le contexte du verset « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés », c'est tout ça. Bon, bien sûr, il y a encore avant, il y en a encore après, mais je ne peux pas tout vous lire. Je vais faire déjà beaucoup, beaucoup de lectures. C'est pour ça que je n'ai pas tout mis, hein, sur le... parce que sinon ça faisait un PowerPoint qui était très, très gros. On a besoin de s'examiner soi-même. L'auto-jugement ou l'auto-critique pour voir ceci, ce qu'on fait est bon. Jugement personnel dans la partie du haut. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors quand ça dit ça, ça parle du juge suprême, l'éternel. Mais pour que notre jugement soit bon, faut-il encore que notre jauge d'évaluation, notre grille d'évaluation soit correcte ? Pour les enseignants, s'ils n'ont pas mis un barème pour évaluer les élèves, ça devient plus difficile. Ah oui, peut-être que c'est bon. Oh, c'est à peu près bon. Allez, 15. Ah oui, mais moi j'ai eu que 12. Ah oui, mais c'était à peu près bon aussi. Et mais pourquoi j'ai que 12 ? Ah, parce que j'ai évalué comme ça à la louche. Vous trouvez ça juste ? Un enfant, il ne trouvera pas ça juste, hein, et il le fera savoir. Hein. Mais c'est pareil pour nous. Et ce qui nous permet d'avoir finalement le bon jugement de nous-mêmes, ben, c'est d'être renouvelé par l'intelligence accordée par le Saint-Esprit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, comme dira Paul aux Romains. Et à partir de là, ben, notre jugement, pour notre autocritique, elle part sur de bonnes bases. Sans ça, oh, mais moi, je suis moins pire que les autres. Ah, ce que je fais, c'est pas dramatique. Ça fait de mal à personne. Ah, j'ai téléchargé un programme. J'ai pas payé. Oh, c'est pas grave, ça fait de mal à personne. Tout le monde le fait. Moi, je fais pas grand-chose. Hein. Eh oui, mais ce pas grand-chose-là, déjà, c'est déjà trop. Mais ça, c'est un autre sujet. Le juge conduit par l'esprit. Ah, ça devient déjà plus intéressant. Juger les dons de prophétie. Juger d'une situation. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, versets 9 à 13, Paul écrit ceci. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Allez, on va faire du vide dans l'assemblée. M'en voulez pas, je vous connais pas, je peux en profiter. Bon, Céline, à part toi, je ne vais pas parler de toi. Mais les autres, je ne les connais pas. Allez, je demande à chacun, ivrogne, ravisseur, outrageux, idolâtre, cupide, impudique. Allez, vous sortez. Je crois que si je vous disais ça comme ça, au début du message, vous le prendriez mal. Et vous me direz, mais pour qui il se prend ? Et pourtant, il a raison, Paul. Ah là, j'ai bu un verre de trop. Bon, bah c'est fini, je ne peux plus retourner à l'église. Ah, j'ai été cupide. J'ai gardé pour moi ce que j'avais prévu de mettre à la dîme. Ah, mais j'en avais besoin, mais non, c'est pour moi. Allez, je ne peux plus aller à l'église. Mais Jésus va préciser quelque chose. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute la sphère se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Les Hébreux ne devaient pas manger avec les païens et les publicains. Donc là, on arrive sur la dernière étape. Finalement, ne mangez même pas avec eux, comme dira Paul. Mais Paul est déjà en train de traiter cette partie-là. Mais si on s'arrête juste à la lecture, on pourrait dire « Ah oui, mais il est rude. Jésus est beaucoup plus tolérant. » Non, Paul n'est pas rude. C'est juste qu'il a déjà traité les autres parties. Et quand la personne ne veut pas être pris en tête à tête, avec des témoins, devant l'Église, c'est-à-dire qu'elle s'obstine plusieurs fois dans son péché, alors elle n'a pas lieu d'être au milieu de nous. C'est différent. Mais pour arriver déjà, eh ben, il a fallu avoir ce tête-à-tête. Il a fallu y aller avec plusieurs personnes pour avoir des témoins. Donc c'est pas, allez, j'ai fait le tête-à-tête, je vois les témoins dans l'église, au bout de 5 minutes, c'est bon, on a fait, au revoir, tout jugement fait. Non, ça se fait par étapes. On va voir la personne, parce que Dieu nous a mis à cœur quelque chose. Et on y va avec amour, conduit par l'esprit. Et puis là, on voit qu'il n'y a pas de changement. Bon, ben alors on va prendre quelques témoins. Peut-être que j'ai pas su bien m'exprimer et que d'autres auront les mots. Puis la personne, elle veut pas. Ah ben, il faut peut-être en parler à l'église maintenant. C'est encore une étape suivante. Mais tout ça, ça prend du temps. Et ce temps, c'est pourquoi ? C'est pas pour dire, bon, j'espère que tout va se régler tout seul avec le temps. Hein. Mais c'est dans l'espoir que finalement, l'esprit aura suffisamment travaillé le cœur de la personne pour qu'elle se remette en question et revienne vers Dieu. Et avoir la joie, non pas... Enfin, d'avoir la joie d'avoir quelqu'un qui soit sauvé, qui revienne à Dieu. Parce qu'on a tous un moment où on n'est pas bien. Et on a besoin d'être soutenu, encouragé, non pas dans notre péché, mais encouragé pour en sortir. Et puis on a aussi le juge suprême, l'Éternel. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu. On finira tous par être devant l'Éternel pour répondre de nos actes. Et ce qui est merveilleux, c'est de se dire que ben, devant l'Éternel, il a la connaissance complète de toute chose. Parce que si nous, on juge, voilà, imaginons, c'est un tribunal, je suis le juge, je vais voir la personne, alors est-ce qu'elle est bien habillée, est-ce qu'elle me paraît sur son visage, est-ce que j'ai l'impression qu'elle est innocente, coupable ? Qu'est-ce que me rapporte l'épreuve ? Ah, c'est pas très précis. Waouh, le jugement, il devient difficile. Et puis la personne qui est condamnée, elle peut se dire, hé, il n'y a pas tout là, il n'y a pas toutes les informations. Mais l'Éternel, lui, sait tout. Et il voit au plus profond de notre cœur. Et ça, c'est rassurant parce que quand il fait un jugement, il va le faire de manière juste. Et être jugé, moi je préfère être jugé par un bon juge, un juste juge, que par un juge inique qui ne pense qu'à lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a un d'ailleurs qui aimerait bien être juge. Le diable. Alors pour l'instant, il n'est qu'accusateur. Mais il espère être plus que ça. C'est un peu comme Isnogoud qui veut être calife à la place du calife. Et heureusement, Isnogoud, il n'est jamais calife. Et notre Dieu ne pourra jamais être détrôné. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Mais le diable, lui, s'il sait qu'il ne peut rien contre Dieu, il va par contre tout mettre en œuvre pour agir contre nous, nous accuser. Oh, tu vas à l'église, mais tu as vu ce que tu as fait cette semaine ? Tu oses aller à l'église ? T'as pas honte ? Comment ça, t'as demandé pardon ? Mais non. Regarde, t'as fait ça, ça, ça. Et puis, il y a 10 ans de ça, t'avais fait ça. Hein ? Il est là pour nous rappeler les choses, mais pas de la bonne manière. Pour nous enfoncer, pour tout faire pour que finalement... on n'ose pas se tourner vers Dieu. On se sent abattu. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions être rachetés. Ce que nous ne pouvons pas faire, parce que la condamnation, elle est vraie. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, Christ l'a fait à la croix. Lui a payé le prix pour nous. Et parce qu'il a payé le prix, parce qu'il a marqué gracié sur notre front, alors nous pouvons relever la tête. Et on est gracié non pas pour uniquement pour ce qu'on a fait avant, mais pour tout ce qu'on pourrait encore faire, à condition bien sûr de se repentir, de demander pardon. Oui, parce que c'est pas un salut, hop, c'est bon, j'ai mon diplôme, je suis sauvé, c'est marqué là. Et ça s'arrête là. Mais Dieu a déjà payé le prix pour nous. Le jugement est tombé sur lui. Tu peux passer à la suivante. Et malgré nos imperfections, il a décidé d'utiliser les hommes comme juges. Il y a tout un livre dans la Bible qui va en parler. Le livre des juges. Alors certains, je pense que vous les connaissez bien. Si je vous parle de Gédéon. Qui connaît Gédéon? Tout le monde? Mais qui connaît Elon? Je ne parle pas du milliardaire, hein, Elon Musk. Hein. Ah oui, déjà, on connaît moins Elon. Hein. Pourtant, comme les autres, il est dans les juges. Il a même été juge pendant 10 ans. Alors, je rappelle l'époque des juges. Hein. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Un petit peu comme maintenant. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et le peuple avait tendance à se détourner. Parce que finalement, ce qu'il trouvait qui était bon, c'était de se détourner de Dieu. Bon. Et puis quand il souffrait, parce qu'il y avait une promesse hein, dans l'Alliance, si le peuple se détournait, eh bien Dieu ne les gardait plus. Alors au bout d'un moment, ils se mettent à crier à Dieu. Au bout d'un moment, au bout de longues années parfois même, de très longues années. Et l'Éternel, à ce moment-là, leur suscite des juges. L'Éternel était avec le juge, il est délivré de la main de leur ennemi pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Donc les juges étaient choisis par l'Éternel. On pourrait dire, ben voilà, ils sont choisis, ils sont connus, ils vont agir, ils vont œuvrer, on va voir des choses glorieuses, et pourtant d'Elon, on ne sait absolument rien. Enfin, si, je vais vous dire ce qu'on sait. C'était au chapitre 11-12. Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et il fut enterré à Ajalon dans le pays de Zabulon. Voilà. Vous allez pouvoir mettre ça sur le CV. Et parfois, eh ben, on peut être comme Élon, un travailleur de l'ombre. C'est-à-dire que personne ne sait exactement ce qu'on fait, ni réalise peut-être ce qu'on fait. Pourtant, Dieu nous a demandé de faire quelque chose, on est à son service, on agit, mais peut-être totalement ignoré des autres. Que ce soit dans le travail, dans le service à l'église, dans la famille, il y a des choses que tu fais, personne ne remarque, personne ne vient te dire merci, et ça te désespère. Tu te dis, mais Seigneur, à quoi ça sert? Mais si personne ne voit, c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est que l'Éternel, lui, le voit. L'Éternel le sait. Et l'Éternel récompense au moment voulu. Alors on aime tous recevoir des merci, hein, des félicitations. Ah, si tu n'avais pas été là. Mais un travailleur de l'ombre, c'est pas ça. La personne qui a nettoyé, moi je ne l'ai pas vue. J'en profite, hein. Comme je vous ai dit, je ne connais personne. Moi je ne l'ai pas vue, par contre, ben, je la remercie. Parce que j'apprécie donc, quand je rentre que tout soit propre. La personne qui a donné son offrande, ben, je vais la remercier aussi. Parce que grâce à elle, alors je dis une personne, hein, mais je sais que vous êtes plusieurs, hein, ben, grâce à elle, on est dans un local qui est chauffé. Et oui, ça paye les factures. Alors on ne sait pas qui a fait quoi. Mais on peut voir le résultat de ce qui a été fait. Puis je vais finir, si vous avez encore de la patience, par un dernier juge, enfin plutôt une juge. Déborah. Elle a été juge, elle, pendant 40 ans. Et ça commence par dire ceci. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Oui, parce qu'à l'époque, se lever en tant que juge, au féminin, on ne peut pas dire que ça soit quelque chose courant. Mais les chefs étaient sans force, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la peine de se lever. Donc quelqu'un d'autre a répondu à l'appel. Elle était prophétesse. C'était déjà une activité suffisante. Elle faisait confiance à Dieu. Mais quand il y aura un besoin, elle va oser se lever. Mais elle se lève parce que d'autres n'ont pas répondu à l'appel. Je vais vous rapporter un petit témoignage. Donc, je vous ai dit que je venais de Montpellier. Et sur Montpellier, quand j'étais jeune, donc c'était avant de rencontrer ma femme, eh ben, j'ai été désigné pour faire partie des jurés au tribunal. Donc on reçoit une convocation en disant, voilà, monsieur, vous avez été choisi, sélectionné dans la liste électorale pour faire partie des jurés. Merci de compléter ces documents et de nous les renvoyer. Donc ça, c'était à peu près début d'année. De nombreux mois plus tard, je reçois un deuxième élément, parce que j'avais bien sûr rempli hein, les informations, où on me dit, ben, vous avez été sélectionné dans ceux qui avaient rempli une deuxième sélection. Et vous serez convoqué en fin d'année. La fin d'année arrive, alors là par contre la convocation après elle est obligatoire. Hein. Donc je suis allé voir mon employeur avec mon papier, il me dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis ben voilà, j'ai été sélectionné. Ok, donc une semaine d'absence. Alors certains pourraient dire, waouh, une semaine de vacances. Mais c'est pas tout à fait ça. Et le premier jour, j'arrive au tribunal avec tous ceux qui avaient été sélectionnés là. Et là, il y a encore un tirage au sort pour choisir ceux qui feront sur le procès du jour. Le lundi matin, tirage au sort, je ne suis pas sélectionné, je rentre à la maison. Mardi, tirage au sort, je ne suis pas sélectionné, je rentre à la maison. Mercredi, tirage au sort, je ne suis pas sélectionné, je rentre encore à la maison. Et là, je fais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me fais venir là, avec tous ces tirages au sort, pour que je rentre à la maison? Parce que si tu voulais juste que je sois à la maison, je posais des congés et j'étais à la maison. Et le jeudi, je vais au tribunal, tirage au sort, et là je rentre pas à la maison. Et là je reste. Et puis c'est un gros procès sur 2 jours. Un procès en appel pour meurtre. Situation délicate. Bon, Dieu m'a choisi, il me met là, ok, le procès passe. Et on n'a pas le droit de dire ce qui se passe dans la zone de délibération. Donc le soir, je rentre, je suis tout seul à la maison, et puis j'ai personne à qui parler. Alors si, je peux prier. Et heureusement qu'on a Dieu à qui on peut quand même parler. Mais j'aurais voulu avoir quelqu'un, un vis-à-vis, avec qui échanger. Le procès se termine. Et quelques temps plus tard, à l'église, une sœur africaine arrive et elle me dit, moi je t'ai vu au tribunal. Et oui, parce que l'accusé, c'était de sa famille. Et elle était contente que j'ai été dans les jurés. Mais ce qui m'a fait de la peine, c'est que j'ai appris plus tard que 2 autres jeunes de Montpellier avaient été reçus une convocation en tant que juré dans la même période que moi. Donc je rappelle, hein, Montpellier, c'est à peu près 350 000 habitants. Enfin, en tout cas à l'époque. Et dans tous ces électeurs, 3 personnes de la même église reçoivent, dans la même période, une convocation. Mais eux n'ont pas donné suite à ça. Oh, qu'est-ce que je vais m'embêter avec ça? Mais moi, j'aurais aimé qu'il soit là. J'aurais aimé avoir deux frères présents, parce que je suis convaincu que s'ils avaient été conviés, ce n'était pas pour faire un autre procès, mais c'était pour être sur le procès où on avait une sœur qui avait un membre de sa famille. Moi, j'aurais aimé être, les avoir, parce que j'aurais pu parler avec eux, j'aurais pu prier avec eux. Et là, ça change tout. Ça donne un appui, car là où deux ou trois sont réunis et s'accordent dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans la période de délibération, j'aurais pas été tout seul. On aurait été quatre. Eh oui, hein. Trois plus un. Hein. Et là, ça aurait pas été la même chose. Parce qu'il y a toujours cette question en moi. Est-il innocent ou est-il coupable ? Parce que on peut vous donner des preuves, on peut vous montrer des choses, mais on n'est pas dans le cœur des hommes pour savoir ce qu'il y a réellement. Alors des fois, on peut être convoqué à quelque chose, convoqué pas forcément de manière officielle comme là, hein. Mais Dieu peut nous appeler à faire quelque chose et on dit « Ah ben non, à quoi bon ? À quoi ça sert ? J'ai pas besoin de ça, hein. J'ai autre chose à faire. Oh, c'est stupide, je vais pas faire ça. » Mais quand Dieu nous appelle à quelque chose, aussi improbable que cela puisse paraître, si c'est bien Dieu qui appelle, et je précise, si c'est bien Dieu, alors c'est qu'il a une raison derrière, même si nous on la voit pas. Et Déborah, elle, quand elle a été appelée, ben, elle s'est levée. Et au moment où il va falloir partir en guerre, elle va aller voir Barak, elle va lui dire « Hé, lève-toi !» Mais Barak, lui, il ne va pas répondre à l'appel. Il va dire « Non, non, ben, si tu n'y vas pas, moi, j'y vais pas. Hey, »« Mais si moi, je viens, » va lui dire, « tu n'auras pas la gloire que mérite un chef. Ah, »« Mais c'est pas grave, si tu ne viens pas, moi, j'y vais pas. Hein. » Il n'a pas confiance. Mais Déborah, elle, elle a confiance en Dieu. Elle a une relation avec Dieu et du coup, elle peut mettre sa confiance en lui. Il a appelé, il a dit qu'il allait avoir le combat. Donc s'il fait ça, c'est qu'il y a la victoire. C'est fini. Les juges sont là pour délivrer. Et quand elle va y avoir la victoire, elle va dire « Youpi, vive moi !» Ah non, je vois que certains sourient. Vous savez que c'est pas ça, hein. Non, non, elle va remettre toute la gloire entre les mains de Dieu. J'aime bien ce chant qui dit « À lui soit la gloire. » Car il en est le seul digne. Et toi, quand tu as une victoire dans ta vie, quand Dieu te bénit, quand Dieu te délivre, quand Dieu te guérit, à qui donnes-tu gloire ? Ah, merci aux médecins de m'avoir bien soigné. Ah, merci à ma maman de m'avoir rendu si fort. Ah, si j'étais pas aussi intelligent, j'aurais pas pu faire. Ou est-ce que, ah, sans l'aide de Dieu, je serais pas là. J'aurais pas pu agir. J'aurais rien pu faire. Parce que c'est lui qui me donne toute la force. C'est lui qui me donne tout ce que je peux faire pour avoir la victoire. Parce que la victoire vient de qui ? Elle vient de l'Éternel. Alors le temps me manque, hein, pour vous parler des autres juges. Hein, il y a eu les libérateurs militaires comme Gédéon, des juges improbables comme Éhud. Éhud, c'est un meurtrier et pourtant il sera juge. Il y a les juges qui étaient consacrés dès leur naissance, d'autres qui étaient prophètes, certains étaient totalement en appui sur Dieu toute leur vie. Enfin, ils s'appuyaient sur Dieu toute leur vie. Si je mets les mots dans le bon ordre, c'est mieux. Et d'autres, par à coup. Mais toi, quel style de juge es-tu ? Cassant ou rempli d'amour ? Voulant être vu ou acceptant de servir dans l'ombre ? Répondant aux besoins des autres ou ne cherchant qu'à satisfaire tes propres désirs ? Quelle est ta disposition de cœur ? Est-ce que tu juges par ta vieille nature, cette nature qui remonte si facilement en surface, hein, ou au contraire remplie par l'Esprit de Dieu ? Que Dieu nous permette d'être remplis d'amour et conduits par son Saint-Esprit, afin que tout ce que nous fassions apporte un bon témoignage, parce que c'est Dieu qui nous conduit dans ce chemin-là. Seigneur, tu connais nos cœurs, et je te remercie parce que tu les connais parfaitement. Tu sais nos faiblesses, tu sais nos manquements, tu sais les moments où nous avons des doutes, tu sais les moments où nous pouvons chuter. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu nous accordes tout ce qu'il faut pour avoir ton soutien, ton amour, pour être restauré, pour être pardonné. Aide-nous à marcher dans tes voies, jour après jour, remplis de ton esprit. Et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, alors accorde-leur le baptême. Accorde-leur d'être recouverts de ton esprit. Et que chaque jour nous soyons des témoins efficaces là où tu nous places, osant relever les défis, même si les choses nous paraissent parfois un peu surprenantes. Mais quand c'est toi qui conduis, rien n'est surprenant. Au nom de Jésus, amen. Encore un petit témoignage, si vous me permettez. Il ne va pas durer longtemps, celui-là. Quand je disais que des fois, il peut y avoir des choses surprenantes. Toujours sur Montpellier, j'étais seul en voiture et je rentrais. Au moment où il y avait la circulation qui allait arriver, donc j'avais envie de pouvoir rentrer avant ça. Et j'étais sur une voie rapide. Et puis d'un coup, j'ai à cœur de faire un détour et de passer devant l'église, de faire un petit crochet. Et puis là, j'ai la pensée, je fais, mais qu'est-ce que je vais aller faire un détour alors que je dois aller tout droit? Je vais rajouter 5 minutes. Non, je vais tout droit. Je finis à peine ma pensée. Je claque! Un flash. Oh, je roulais pas vite, hein, mais je roulais pas à 50 non plus. 50 dans la descente, c'est un peu rude. Surtout sur une voie double, unique. Hein. Et là, je m'en suis voulu. Parce que Dieu me disait, fais un détour. Et moi, ça me paraissait complètement loufoque de faire un détour et de perdre autant de temps alors que j'avais juste allé tout droit. Mais quand Dieu nous met à cœur quelque chose, lui, il sait pourquoi. Donc, il te met à cœur quelque chose, ben, demande-lui d'abord si ça vient de lui, pour être sûr. Et après, ose faire ce qu'il te dit.